Alors, à l'invitation de Gilles Buisson, que je remercie, je viens vous faire part d'un retour d'expérience sur un cours en particulier. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis chercheuse au laboratoire Ville, Mobilité, Transport, laboratoire de l'École des Ponts, de l'IFSTAR et de l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Gilles m'a sollicité sur ce cours en particulier, qui est le cours OACMO pour outils d'analyse des comportements de mobilité, que je vais vous présenter très rapidement. Avant de vous expliquer de quelle façon on a, assez humblement, collectivement, tenté de réfléchir à la mise en autonomie des élèves, sachant qu'il n'y avait aucun de nous qui était spécialiste de pédagogie, donc on s'est fixé des objectifs en termes de mise en autonomie des étudiants, mais on a trouvé les méthodes par nous-mêmes, certaines qui vont peut-être vous sembler banales et d'autres peut-être plus créatives, j'espère. Toutes les idées tordues ne sortent pas de mon cerveau, un certain nombre quand même. Donc ce cours porte bien sur des outils d'analyse, donc sur des méthodes essentiellement. Il a été mis en place dans le cadre du cycle ingénieur d'abord, les voies d'approfondissement de troisième année du département Ville, Environnement, Transport, la voie Transit Lab en particulier, a fait appel à des cours support pour ces projets qui occupent les étudiants sur un semestre, et c'est dans ce cadre-là que le cours au ACMO a été développé. Il a été ouvert l'année suivante aux étudiants du Master Trad, ce qui fait qu'on est au cours de la troisième année là, et on a depuis 2 ans un certain mélange des formations, et du fait du Master Trad et des ingénieurs en double diplôme, en cycle ingénieur, un bon mélange de nationalités également. Voilà pour le contexte. Les objectifs du cours, en termes très simplifiés, c'est de connaître les théories explicatives et les méthodes d'analyse du comportement, à la fois dans les disciplines sociologiques, économiques, psychologiques et ergonomiques, la portée de ces méthodes et leurs limites, mais non seulement les connaître, mais avoir eu l'occasion de les utiliser sur un ou des cas d'analyse concrets. Donc on est 2 enseignantes responsables, Sonia Adlet, de chercheuse à l'IFSTAR, et moi-même qui suis École des Ponts. On a 2 enseignants associés, Florent Lenéché de l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée et Julien Sestac de l'IFSTAR qui nous accompagnent sur quelques séances. Pour vous expliquer comment le cours est structuré et en quoi consistent les différents types d'activités en autonomie qu'on fait faire aux étudiants. Très rapidement, on est sur un cours en 13 séances de 3 heures, qui était passé à 2h30 avec la réforme et qu'on a refait passer à 3 heures parce que c'était trop dense. Sur 13 séances, dont la dernière est dédiée à la soutenance d'un projet dont je vais vous parler tout de suite. Et on travaille l'autonomie sur 3 types d'activités différentes. J'ai dit de courte, moyenne et longue durée. Je commence par la longue durée, où on a de bout en bout du module un projet qui se conduit en parallèle du module, avec 2 séances en tutorat dédié au projet dont je reparlerai en fin d'intervention. On a du travail en autonomie un peu scolaire, de travail à la maison, de préparation maison des séances, pas sur toutes les séances et notamment pas vers les séances de la fin du module pour ménager davantage de temps de travail sur le projet en fin de module. Et on a des séances en autonomie, en atelier, pendant certaines séances, là encore, pas toutes. Donc on peut avoir des séances qui se présentent comme ça, avec une partie restitution du travail qui a été préparé par les étudiants chez eux, puis cours magistral. La partie cours magistral est toujours assez restreinte, entre 1 heure et 1 heure et demie, jamais plus, ou une présentation comme ça, cours magistral, puis atelier. On va voir que ça correspond, dans notre tête en tout cas, à des objectifs un peu différents, les restitutions et les ateliers. Donc en tout, on a essayé de calibrer ça sur le quota qu'on nous avait donné, à savoir 30 heures de travail personnel à la maison, puisque c'est un module à 3 ECTS. Et c'est à peu près ça qu'on a tenu les 2 premières années d'expérience. Je vais commencer par les ateliers qui vont peut-être vous sembler relativement standard. On est sur des exercices d'application du cours ou des travaux d'analyse sur article ou des études de cas ou des mises en situation suite au cours magistral. Donc l'idée, c'est bien d'approfondir un concept qu'on vient d'étudier en cours magistral ou de mettre en application une méthode qu'on vient d'étudier en cours magistral. Pour faire simple, je vais prendre 3 exemples qui se situent là. On est aujourd'hui à la séance 9, c'était hier. Donc dans les séances qui se sont écoulées, nous avons déjà conduit 3 ateliers. Je vais vous montrer comment ça se présente, comment on a choisi de le présenter. En séance introductive, après un bout de cours introductif, on a un atelier qui consiste à répartir les étudiants en binômes et trinômes. Les T sont des trinômes. On donne à chaque binôme ou trinôme 2 articles à lire sur un concept qu'on va mobiliser ensuite tout au long du module. Et on leur fixe le cadre de l'exercice, donc 45 minutes de lecture, puis une synthèse et ensuite 5 minutes de restitution. Et on leur explique ce qu'on attend d'eux dans le cadre de la restitution. Et l'idée, c'est bien de faire dialoguer 2 articles sur un même concept pour voir si le même concept est abordé de façon différente, s'il y a des limites à une méthode employée dans un des articles qui sont levées dans l'autre article, ce genre de dialectique-là. Donc ça, c'est un type d'atelier. Dans une séance un peu plus tard, on a un atelier sur le traitement de bases de données, puisque ça fait partie des méthodes qu'on essaie de mettre à leur disposition. Donc là, répartis en 3 groupes cette fois, mais travaillant toujours en binôme, on donne à chaque groupe 2 bases de données qu'on a préparées. On leur livre pas nos grandes enquêtes de données transport. On a fait des extractions de ces bases de données-là et on leur pose une question qu'on leur demande d'éclairer. En interrogeant 2 bases de données différentes pour voir s'ils y trouvent les mêmes informations, s'ils y trouvent des informations différentes, pourquoi, si les résultats qu'ils obtiennent sont différents, pourquoi, etc. Un troisième et dernier exemple d'atelier, on va jusqu'à leur faire faire de la modélisation et de la modélisation multi-agent en particulier, donc ça paraît peut-être ambitieux comme ça d'arriver en égrenant les méthodes jusqu'à la modélisation. Ils n'en ont pas tous fait au préalable. En fait, on arrive en pré-configurant un modèle relativement simple qui soit adapté au niveau de connaissance de chacun, à leur faire prendre en main sur une séance d'atelier d'une heure et demie un modèle multi-agent de bout en bout, à leur faire décortiquer des bouts de code qu'il y a derrière ce modèle-là, et à les mettre en situation de modifier certains paramètres sur le modèle pour mesurer l'impact que ça a sur les comportements des agents observés sur ce modèle-là, et même mettre en place un plan d'expérience à partir de ce modèle. Donc, chose que font les modélisateurs quand ils essaient de tester, de calibrer leur modèle et de tester la validité de leur modèle sur des comportements réels. Voilà. C'était pour vous donner des exemples d'ateliers qu'on arrivait à mettre en place et donc pour lesquels vous voyez que le cadrage, la préparation préalable est relativement important. Dans les facteurs de succès de ces ateliers-là, il y a le bon dimensionnement de l'exercice parce que on ne peut pas noyer les étudiants sous des demandes, enfin, trop complexes ou sous des bases de données qui ne soient pas préalablement préparées, etc. La qualité du support, donc il faut qu'ils aient sous les yeux la mise en contexte, la question qui leur est posée, ce genre de choses, que les bases de données soient prêtes quand ils arrivent. On travaille toujours en groupe restreint parce que on se rend compte que sinon il y a beaucoup de pertes d'attention. Déjà le trinôme, c'est pas idéal pour ce genre de travaux-là. On tire au sort les groupes compte tenu du fait qu'on a des formations mélangées parce que ça les amène à tirer profit des atouts des différentes formations représentées plutôt que de rester en binôme avec des gens qui ont exactement la même formation qu'eux. On est bien entendu extrêmement disponible pendant ces ateliers et on répond, la règle c'est ça, c'est qu'on répond à toutes les questions au fur et à mesure qu'elles se posent dans ces ateliers-là et on leur fait des retours qualitatifs, j'y reviendrai à la fin, systématiques sur la façon dont s'est déroulé l'atelier, les difficultés qu'ils ont rencontrées, etc. Un autre type de travail en autonomie dont je vous ai parlé, c'est ce travail de séance à séance où on leur demande de préparer la séance suivante, où l'idée c'est vraiment qu'ils appréhendent un concept, une méthode, un outil avant de l'étudier de façon plus approfondie en cours, et qu'ils fassent une restitution de ce qu'ils ont appris à la classe pour amorcer la séance même. Là encore, deux exemples parmi les séances de restitution qui ont eu lieu jusqu'ici. Donc sur la deuxième séance, on est encore dans le cadre du panorama sur les approches, les concepts, etc. On les répartit de nouveau en binôme, en trinôme, et il y a un cadrage relativement clair de ce qu'on va attendre d'eux à l'occasion de la séance suivante, un exposé oral de 10 minutes. On se tient à leur disposition par mail s'ils ont des difficultés. Le type de sujet qu'on leur donne, là on est vraiment en séance exploratoire, à la deuxième séance, on leur donne un thème. On leur donne des auteurs et des auteurs privilégiés sur ce thème et on leur dit, vous savez aller chercher de l'information par vous-même, si on vous donne un thème comme ça pour préparer un bout de cours, allez-y, ne vous noyez pas dans l'information, allez voyez quelles sont les dimensions essentielles de ce concept-là, voyez quelles en sont les limites, etc. Si vous ne trouvez pas, consultez-nous. Voilà les auteurs référents sur le sujet et vous nous direz ce qu'il en est à la séance suivante. Un autre type de préparation qu'on demande d'une séance sur l'autre, pour une séance consacrée à la méthode du questionnaire d'enquête, on leur demande sur cinq sujets différents à nouveau, enfin six, pardon, de préparer un questionnaire en nombre de questions limitées, avec une présentation préalable des objectifs, hein, de leurs attentes vis-à-vis de ce questionnaire-là. Il y a une mise en situation, là encore, enfin, presque une scénarisation de qui ils sont, pourquoi ils mettent en place ce questionnaire-là, qu'est-ce qu'ils cherchent à savoir. Libre à eux, ensuite de choisir les 15 questions qu'ils posent, les modalités de réponse qu'ils envisagent, etc. Ce qu'ils ne savent pas à ce moment-là, c'est que le questionnaire, ils vont le dérouler en conditions réelles à l'occasion de la séance suivante, mais j'y viens là. Les facteurs de succès de ces préparations de séance en séance, bon, c'est une présentation préalable relativement claire des consignes, une disponibilité, ça toujours, des enseignants par mail entre deux séances. Là encore, le travail en groupe restreint, on essaie de ne pas aller au-delà de deux parce qu'ils ont besoin de se voir entre deux séances et qu'ils ont des contraintes d'agenda assez fortes. On leur fait des retours systématiques, donc à la fois quantitatifs, notes et qualitatifs par des commentaires dont je vous montrerai un aperçu tout à l'heure. Et on a en général non seulement le cours magistral qui suit, mais un support de correction quand ça s'y prête qu'on met en ligne sur EducNet également. Et un petit bonus pour que ces séances fonctionnent bien, pour qu'ils s'impliquent vraiment dans la préparation de ces séances-là, il y a toujours un. Enfin, on essaie de rajouter des dimensions un peu interactives pour améliorer la qualité d'écoute parce qu'ils nous ont rapporté que ce n'était pas évident d'écouter un autre étudiant qui fait un bout de cours plutôt que le prof. Donc là, sur ce point-là, par exemple, on a mis en place un QCM où les étudiants sont notés non pas seulement sur leur compréhension de ce qui a été dit, ce qui est une chose, mais également sur la qualité de ce qui a été compris, enfin sur la compréhension des autres sur le bout qu'ils ont présenté, ce qui les pousse à faire des efforts de pédagogie également sur la façon dont ils présentent les choses. Sur le questionnaire, je l'ai mentionné, ils se retrouvent à administrer le questionnaire en conditions réelles avec l'enseignant qui joue le sujet naïf du questionnaire et qui essaie de tomber dans tous les pièges que le questionnaire a laissé ouverts. Le cas échéant, et ils se retrouvent face à face avec les défauts de leur questionnaire détaillés en séance. C'est une séance très drôle d'ailleurs, la séance du questionnaire. Le dernier type de travaux en autonomie qu'on mène, c'est ce travail sur la durée, sur un projet, en tâche de fond. pour lesquels on leur demande à eux de choisir le sujet sur lequel ils veulent travailler, de le problématiser, de formuler des hypothèses. On leur demande de faire une revue d'état de l'art sur ce sujet-là, de choisir parmi les méthodes qu'ils auront approchées en cours deux méthodes qui leur semblent complémentaires pour répondre à la question posée, de mettre en œuvre ces méthodes et de discuter les résultats fournis par deux méthodes différentes en expliquant si elles se complètent, si elles se contredisent et pour quelles raisons, si ça tient à la façon de mettre en œuvre les méthodes, si ça tient aux conditions d'observation, etc. Là encore, on a pu travailler en trinôme sur ce projet de fond. Le binôme, c'est bien, ça évite notamment les passages clandestins sur lesquels on reviendra, mais un des facteurs de succès essentiels de de ce travail sur la durée, ça nous semble être les rendus intermédiaires. Et on leur demande vraiment d'avoir un premier descriptif de page relativement tôt dans le semestre, d'avoir un plan détaillé un peu plus tard, d'avoir un rapport partiellement rédigé 3 semaines avant la fin et un rapport final 1 semaine avant la soutenance. Donc vous avez les flèches orange qui correspondent à ces rendus intermédiaires. Et entre autres facteurs de succès, on avait déjà l'an dernier introduit une séance en bibliothèque parce qu'on s'est rendu compte que tous ces étudiants en troisième année ne savaient pas faire de revue de littérature, non seulement ne savaient pas aller consulter la littérature, mais ne savaient pas rendre compte de leurs sources dans leurs documents. Donc on a une séance où on projette toutes les horreurs qu'on a vues par le passé et on leur demande de nous dire ce qu'ils en pensent. Ça, c'est le début de la séance et ensuite on leur explique comment faire. On leur explique comment faire sur le sujet qu'ils ont déjà esquissé. Puisque ça s'intercale à ce moment-là. Et cette année, on met en place une deuxième séance de tutorat un peu plus tard, où on va les aider sur la dialectique entre les méthodes et sur la rédaction du rapport même, parce qu'on a compris qu'il y avait des difficultés l'an dernier en cette phase un peu plus avancée de travail sur le projet. Voilà. Je voulais interroger deux éléments de la commande qui m'avait été passée, à savoir le concept de scénario pédagogique, parce qu'il y a tout ce qu'on prévoit et puis il y a tout ce qu'on ne prévoit pas. Et je voulais signaler que bon, il faut être un peu casse-cou pour faire tout ça, qu'on leur ménageait des éléments de surprise à eux, mais qu'il y avait voilà, des éléments de surprise qui nous revenaient à nous. Bon, alors dans le jeu de rôle, bien évidemment, quand on joue le sujet naïf, on est en permanence dans l'improvisation et on tombe sur des situations cocasses parfois. On met nous nos théories à l'épreuve du temps réel un peu aussi. Donc quand on leur parle d'économie comportementale et qu'on leur dit que deux façons différentes de poser une question peuvent amener à deux réponses différentes statistiquement. On a fait passer en début de séance un questionnaire aux étudiants qui posaient les mêmes questions de façon différente et en cours de séance, on analyse les résultats pour voir si on arrive à leur mettre en évidence ce type, enfin, si ces théories-là se vérifient voilà, en temps réel et ça les aide à s'approprier ces concepts-là auxquels ils ont parfois un peu de mal à croire sinon. De la même façon que pour la modélisation multi-agent, pour tester la validité d'un modèle, on met en place en séance avec eux un plan d'expérience qu'on teste avec eux. Voilà, donc dans les choses auxquelles on ne s'attend pas toujours et avec lesquelles il faut composer, on sent peut-être plus dans ce cours-là que dans d'autres, l'étudiant en difficulté linguistique, ce qui a été le cas les 2 premières années notamment, on se rend compte que ces séances de mise en autonomie en fait apportent beaucoup à ces étudiants-là en particulier, parce qu'on prend les choses de façon assez décontractée et qu'on note le progrès, et pas seulement le niveau. Et on a constaté enfin, des progrès vraiment énormes, notamment dans la prise de parole en public de ces étudiants-là. Pour le passager clandestin, qui est un autre profil avec lequel il faut parfois composer, le fait de se retrouver dans des configurations de binômes variés, puisque c'est tiré au sort en permanence, le fait d'être mis face à la classe de façon régulière, fait qu'il y a toujours un moment où on est un peu obligé d'assumer quelque chose qu'on a produit ou pas produit. Et on a des passagers clandestins, c'est un comportement qui tend à disparaître au fur et à mesure des séances, y compris sur les plus récalcitrants. C'est ma dernière slide. La deuxième questionnement que j'avais, c'était sur le terme d'autonomie, parce que, enfin, c'est bien sûr pas du tout en opposition, mais on parle d'autonomie de l'étudiant, ça veut dire beaucoup d'investissement de la part des enseignants. Beaucoup, beaucoup. l'investissement de la part des enseignants, parce que le travail en autonomie des étudiants, ça se prépare, ça s'accompagne, et ça s'évalue en continu. Donc je voulais vous mettre un extrait de nos, c'est pas pour que vous lisiez, mais de nos retours séance par séance sur EducNet. On ne fait pas que noter un atelier ou que noter une préparation de séance. On leur explique sur le fond, sur la forme, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment c'était par rapport aux fois précédentes. Et bon, ça, c'est un réel investissement. Ça n'est faisable concrètement que si on est plusieurs enseignants, parce qu'on ne peut pas être disponible à 100% du temps en atelier, en dehors des séances, etc. On a tous des contraintes, et d'une année sur l'autre, elles ne sont pas les mêmes, etc. Donc c'est très utile d'être plusieurs enseignants sur ce type de méthode-là. C'est très utile de capitaliser d'une année sur l'autre, de prendre en compte les retours des étudiants pour mieux calibrer d'une année sur l'autre la charge de travail, tâche par tâche, de maintenir un effectif restreint. Tous les ans, on nous pousse pour qu'on prenne 4, 6 étudiants de plus. Ce qu'on arrive à faire à 12 étudiants, on n'arriverait pas à le... On
là,
est à 12.
À 12.
On n'arriverait pas à le faire à 20 ou 30, oui. Ou on n'arriverait pas à le faire de la même façon. Bon, et puis les risques qui vont avec ça, c'est d'être catalogué cours exigeant par les étudiants, mais comme on est dans les électifs, ne viennent que ceux qui veulent ou se sentent à la hauteur, et d'être catalogué comme du tutorat de bout en bout par la direction de l'enseignement, parce qu'on a du mal à, on a du mal à valoriser l'investissement que représente et la préparation et la correction en continu, et voilà, auprès de l'ADE. Ça, c'est mon petit clin d'œil, c'est ce qu'on leur dit à chaque fois que c'est à eux de prendre la parole.